Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission des commissaires de course. Alors pour cette nouvelle pastille d'intersaison, on va changer un peu par rapport aux deux premières émissions où vous avez évoqué Arkéa Samsic et Delco Marseille. Cette fois-ci, on va partir sur le thème des jeunes des pays émergents. Et pour ça, j'ai avec moi Thomas.
Salut tout le monde.
Et Mathieu.
Bonjour à tous.
Alors pour présenter un peu l'émission à nos auditeurs, on a essayer de trouver un système de draft entre guillemets, c'est-à-dire que Mathieu et Thomas se sont concentrés sur deux zones différentes et ils vont essayer de vous donner un peu leur bonne pioche ou leur pépite pour ces pays-là dans l'ordre de leurs préférences. Alors pour commencer, Mathieu, tu voulais nous parler d'un coureur chinois, je crois.
Oui, pour commencer, je vais vous parler de Xiangjing Liu, qui est un coureur de la Hengxiang Cycling Team et qui est très prometteur. C'est un très bon grimpeur qu'on a vu éclore l'année dernière sur le Tour de Hainan, qu'il a terminé à la 5e place avec pas mal de Conti Pro qui étaient présentes. Hein, donc une course quand même avec une certaine opposition. On l'a vu ensuite sur le Tour de Fuzhou la même année remporter une étape. Et cette année, il a remporté le Tour de Chine 2, donc une 2.1 en Chine. Donc qui se terminait qui avait une ascension assez difficile et il termine devant des coureurs de Conti Pro européennes comme José Fernandez de la Burgos ou Kevin Rivera Nodroni ou Ovechkin de la Terengganu. Donc vraiment un coureur qui est plein de promesses, qui a 21 ans, qui vient du VTT, hein, qui fait beaucoup de VTT et on le voit assez peu sur route. Il serait en train de préparer surtout son gros objectif, ce serait les Jeux Olympiques donc de Tokyo en 2020 en VTT. Mais c'est un grand espoir du cyclisme sur route. Il espère faire le Tour de France un jour et être un des premiers Chinois le premier Chinois à remporter une étape sur le Tour de France. Donc à voir ce que l'avenir lui réserve.
Ouais, alors justement, puisque tu parles d'avenir, je vais essayer de vous poser la question pour chaque coureur que vous allez nous présenter. Les gars, comment tu le vois l'an prochain, coureur chinois, quel prono tu mettrais pour sa saison ?
L'an prochain, je pense qu'il va faire une saison dans la lignée de celle qu'il a fait cette année. Il va rester dans son équipe chinoise, donc chez Hengxiang. Et ensuite, je pense qu'il va encore remporter 2-3 courses difficiles avec des arrivées au sommet. Je ne le vois pas encore vraiment partir en Europe dès l'année prochaine. Je pense que ça se fera plutôt dans 2-3 ans. Alors, son équipe a l'ambition, elle, de monter avec lui, en fait. Il y aurait l'ambition de monter en Conti Pro, voire, on a entendu parler même de World Tour par la suite. Bon, ça sera à voir. Mais je le vois quand même un bel avenir à ce coureur chinois.
Alors, toi, Thomas, pour ton premier nom, tu nous as trouvé un petit grimpeur colombien qui a briller vraiment en début de saison, que ce soit en Amérique du Sud ou ensuite sur les routes italiennes.
Oui, c'est le coureur de né en 1999, Camilo Ardila. Donc Ardila fait parler de lui en début d'année sur le Tour d'Italie Espoir, où il a survolé la course avec ses compatriotes colombiens. Donc il y avait aussi Alba, Peña et Rubio. Alba et Rubio ont signé chez Movistar, tous les deux. Mais Ardila a signé, lui, 4 ans chez UAE, il était convoité par de très nombreuses équipes World Tour. Donc Ardila, c'est un coureur qui a vraiment explosé dès sa première année chez les Espoirs en Colombie, alors qu'il n'avait pas forcément de très gros résultats chez les juniors. Il a notamment terminé meilleur espoir première année sur la Vuelta de la Juventud, donc c'est le Tour de Colombie Espoir en 2018, où il a profité de la domination de son équipe EPM qui avait mis 4 coureurs dans le top 6, dont Daniel Munoz qui est actuellement chez Androni et Harold Terrada qui a signé chez Astana. Et donc cette année, il n'a certes pas gagné la Vuelta de la Juventud, mais il a clairement montré qu'il était le plus fort en remportant 2 étapes, dont le chrono escalada. Oui, c'est un spécialiste des chrono escalada. Et donc il a ensuite profité de sa bonne forme et du parcours du Tour d'Italie Espoir pour s'imposer facilement sur cette course et signer ensuite 4 ans chez UAE.
D'ailleurs, excuse-moi.
C'était aussi le grand absent du Tour de l'Avenir. On a eu 2 gros absents avec Andreas Leknesund, le Norvégien, et Camille Ordila, qui était blessé au genou.
D'ailleurs, on ne l'a pas vu en compétition depuis le Tour d'Italie Espoir, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce que tu penses qu'il est rétabli? Et puis, deuxième question, comme à Mathieu, à quel niveau tu le vois évoluer l'an prochain, Camille Ordila?
Je pense que surtout que son encadrement a préféré le préserver pour l'année prochaine, puisque c'était une blessure au genou, donc ça semblait quand même assez important. Et pour l'année prochaine, je ne sais pas s'il va faire une saison comme Pogacar, mais je le vois honnêtement très fort dès sa première année.
Ça ne serait pas étonnant, ouais. C'est vraiment une pépite. Alors moi, je vais vous parler rapidement de mon premier coureur aussi. Donc, je me suis concentré un peu sur les pays anglophones et sur l'Europe. Donc, mon premier, ce sera Finn Fisher-Black. Pareil, un coureur que ceux qui suivent un peu les catégories jeunes connaissent forcément, puisqu'il a battu le record du monde de la poursuite individuelle dans sa catégorie d'âge cette année. Il a réalisé le doublé course en ligne et chrono sur les championnats d'Océanie. On l'a vu un peu en Europe où il a gagné une course anglaise. Ça a été un peu dur, il a manqué de rythme, je pense, sur les championnats du monde junior. Je pense que ça sera une belle découverte l'an prochain. Il a signé dans la réserve de la Jumbo-Visma et je m'attends à le voir faire quelques belles perfs déjà en 2020. Alors pour passer au numéro 2, Mathieu, je ne vais pas me hasarder à prononcer son nom, je vais te laisser le faire.
Oui, alors mon numéro 2, c'est un Érythréen, donc c'est Enoch Mouloubéran, qui est un Érythréen très prometteur, un coureur complet, qui est de 99 et donc qui a brillé cette année sur les routes du Tour du Rwanda, qui termine à la 12e place, et sur la Tropicale où il fait top 10, enfin 10e. Et donc c'est un coureur complet, un petit peu à l'image des autres coureurs érythréens que l'on voit, c'est-à-dire assez fort au sprint et assez bon grimpeur, donc comme un peu ses compatriotes, donc du même âge. Donc cette année, il était au Centre mondial du cyclisme et donc il a pu disputer quelques courses avec le LSMC. Il a fait le Tour de l'Avenir avec l'équipe d'Érythrée puisqu'ils avaient gagné le droit d'être au Tour de l'Avenir après leur victoire sur une course en Afrique. Le Tour de l'Espoir, voilà, merci, le nom m'échappait. Sur le Tour de l'Espoir en Afrique qui leur a garanti une place. Donc c'est vraiment un coureur qui est plein d'espoir et en qui je pense va dans le futur progresser. Alors pour l'année prochaine, il a pas de contrat dans une équipe continentale ou continental pro ni World Tour, mais il devrait continuer donc au Centre mondial du cyclisme, donc continuer à se former pour espérer intégrer une équipe à l'horizon 2021.
Oui, puis on risque de le voir comme cette année sur les routes du Rwanda et de la Tropicale, je pense, non ?
Oui, on va le voir avec la sélection nationale, je pense, sur les routes, effectivement, de la Tropicale et du Rwanda, oui. Ça, je pense aussi.
Alors Thomas, pour continuer, tu ne nous as pas choisi un Colombien en deuxième coureur, mais un Équatorien.
Oui, j'ai choisi le vainqueur de la dernière étape du Tour de l'Avenir. Donc c'est Alexander Cepeda qui est cousin. Et là, c'est à ne pas confondre avec son cousin Jefferson Cepeda, parce que j'ai vu à plusieurs reprises que beaucoup de personnes le confondaient. C'est un Équatorien qui représente la nouvelle vague équatorienne, avec des coureurs de 18 à 20 ans qui commencent à avoir le niveau sur certaines courses des meilleurs Colombiens. Et c'est un coureur qui s'est fait remarquer en 2018 en Colombie sur quelques courses sud-américaines et qui a vraiment explosé cette année. Dès le début de l'année, notamment, il a remporté une étape en haute montagne à 4000 mètres d'altitude. C'est une des arrivées les plus hautes.
Sur la Vuelta Mendoza, non, c'est ça?
Ouais, le Cristo Redentor, tout à fait, ouais. Et ensuite, il s'impose à plusieurs reprises sur le calendrier colombien. C'était probablement un des meilleurs espoirs sur le calendrier colombien, parce qu'on sait que les moins de 23 ans ont du mal à marcher sur les courses colombiennes élites. Et il a participé à la Vuelta de Juventud en terminant seulement, entre guillemets, sixième. Mais c'était là aussi un des meilleurs coureurs à la pédale. Bon, il s'est fait. On a vu que Camilo Ardila était comme supérieur à lui. Puis à la fin de l'année, il a participé au Tour de l'Avenir avec une étape et en terminant 9e au général. Et pour signer un contrat chez Androni.
Un contrat donc, achat revente, c'est ça?
Ah oui, tout à fait. Savio, le spécialiste de ces contrats-là. Donc il a signé 4 ans chez Androni. Et donc il sera associé notamment au costaricien Kevin Rivera et au colombien Daniel Munoz. Donc moi, c'est une association que j'ai hâte de voir pour l'année prochaine.
Justement, comment tu le vois se positionner l'an prochain, Alexander Cepeda?
Ça va être une année d'adaptation en 2020. Je pense qu'il peut faire quelques résultats sur des courses de second rang. En plus, il aura un calendrier adapté chez Androni. Savio arrive bien à gérer les calendriers des jeunes coureurs sud-américains. Mais je le vois bien faire des résultats, des gros résultats sur des courses comme le Sibiu Tour. Ouais. Peut-être quelques courses en Italie, l'ancien Tour du Trentin, le Tour des Alpes. Faire quelques places dans le top 20, c'est possible ça. Mais non, je le vois faire une bonne saison d'entame chez les professionnels.
Et la question subsidiaire, combien d'années il va rester chez Androni à ton avis?
2 ans.
2 ans maximum, ouais.
Ouais, 2 ans, ouais, je pense. 2 ans,
ça paraît pas mal, ouais. Alors moi, en deuxième coureur, je vais vous parler d'un jeune Américain qui fait partie d'une génération que je trouve archi-talenteuse, pardon, c'est Magnus Sheffield. Il était junior 1 cette année. Il passera donc junior 2 l'an prochain. C'est un coureur qui me fait beaucoup penser à Quinn Simmons pour sa première année chez junior, dans un profil, je pense, un petit peu différent, parce que je pense qu'il roule un peu moins vite que son compatriote, plus un profil de peut-être puncher, flandrien, classic man, mais je l'ai trouvé assez bluffant tout au long de l'année, et on l'a vu lors des championnats du monde, notamment lors de la course en ligne. Enfin, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, vous les gars, mais je l'ai trouvé très bluffant. À un moment, j'ai même cru qu'il était capable de prendre la route Simmons, et pour un J1, je trouvais ça assez exceptionnel, et comme perspective pour 2020, bah, je le vois aussi pareil, hein, faire une grosse saison avec un autre coureur dont je vous parlerai en numéro 3, je pense qu'il risque de dominer le calendrier junior.
Et puis c'est un coureur qui vient du triathlon, je crois, qui avait des records nationaux aux États-Unis sur le triathlon, il me semble.
Ouais, et puis il a touché au cyclocross aussi, donc c'est un peu un coureur passe-partout, ben, un peu comme dans cette tradition justement d'un Quinn Simmons qui faisait du VTT, qui avait commencé la route, il me semble, seulement en avril ou en mars 2018, donc je trouve que c'est une génération qui est vraiment archi, archi prometteuse. Quand même. Mathieu, le numéro 3?
Oui, alors le numéro 3, on va partir dans un pays peut-être où on a moins l'habitude d'aller, c'est l'Iran. Donc, l'Iran, c'est un petit peu mon pays de cœur en Asie, on va dire.
Tu vas avoir des problèmes, toi.
Oui, je m'avance un peu. Donc, alors, ce coureur, c'est Mohamed Ganchkalou. C'est le champion d'Asie U23 en titre. Donc, il est un petit peu plus vieux que tous ceux qu'on a cités jusqu'ici, puisqu'il a 22 ans. Il est de 97. Mais c'est surtout un gars qui est très, très rapide au sprint. Et qui a remporté déjà d'assez nombreuses victoires. Alors déjà sur son tour national, l'année dernière, il a gagné 2 étapes sur le Tour d'Iran, qui est une 2.1 quand même. Et cette année, son équipe, c'est l'équipe de ses parents, puisque la Pige Gaman, dans laquelle il était précédemment, a cessé d'exister au niveau continental. Elle existe toujours au niveau élite en Iran, mais elle n'existe plus au niveau continental. Et donc, cette année, il a été invité en Indonésie, en Chine, et il a fait quelques résultats, quelques places. Alors, il n'a pas remporté de victoire, mais il a fait pas mal de places en terminant, par exemple, 2e d'un tour de Siak, bon, qui a été pas mal sabré à cause de la pollution et des feux de forêt. Mais il a quand même terminé 2e de cette course, et on l'a vu aussi sur l'ITBI où il a fait troisième à une étape. Alors bon, contrairement à tous ceux qu'on a cités précédemment, c'est pas un coureur que je vois potentiellement avoir une grande carrière internationale et c'est pas un coureur qu'on verra en
Justement, j'allais te poser une question un peu différente par rapport à ça, Mathieu. C'est ma question, ça sera plutôt est-ce que pour toi le cyclisme en Iran a changé? Enfin, en tout cas, est-ce que les pratiques ont changé? Parce que, enfin, on va pas faire de langue de bois, on sait tous qu'il y avait des gros soucis par rapport au dopage organisé. Est-ce que tu penses que cette jeune génération, dont il est peut-être le symbole, a d'autres pratiques, on va dire?
Oui, bah, j'ose espérer que ça a changé, effectivement. J'ai l'impression, en tout cas, que la fédération iranienne a vraiment fait le ménage et a viré tous les anciens, tous les gars qui, à 35, même 40 pour certains, arrivaient encore à remporter des courses en Asie tranquillement. Déjà, les équipes iraniennes n'étaient plus invitées nulle part l'année dernière et même l'année d'avant. Elles se sont fait un petit peu sortir de toutes les courses où elles étaient invitées traditionnellement. Et donc la fédération a fait le ménage et aujourd'hui on voit une nouvelle génération émerger, de nouvelles équipes, de nouveaux encadrements aussi et de nouveau les équipes iraniennes sont réinvitées sur les courses et les coureurs iraniens ne dominent plus comme ils dominaient précédemment, ce qui est plutôt bon signe. Ils participent de manière équivalente aux autres équipes et voilà, il n'y a plus une écrasante domination des Iraniens, donc je pense que le cyclisme iranien a pris le bon sens. Après, au niveau géopolitique, c'est très compliqué pour le cyclisme en Iran. Pour le financement des équipes, etc., ça doit être vraiment très, très compliqué. Donc, en espérant que les tensions géopolitiques s'apaisent un petit peu et que l'Iran puisse redevenir le grand pays de cyclisme que ce pays est. Parce que c'est vraiment un grand pays de cyclisme.
Pour nuancer un peu ce que tu as dit, Mathieu, je trouve moi personnellement que les Iraniens gardent un peu cette étiquette d'une mauvaise réputation et que les jeunes ont très peu de chances de se retrouver à l'étranger, dans des équipes étrangères. Avec cette mauvaise réputation, je vois difficilement ce qu'ils peuvent faire dans le futur, les Iraniens.
Oui, c'est sûr qu'ils gardent quand même cette étiquette de grosse chaudière iranienne, on va dire, pour résumer vite. Mais je pense qu'il y a des opportunités vers la Chine quand même, vers les contis chinoises. Elles cherchent toujours des grimpeurs, des gens capables de faire briller le maillot sur le Qinghai Lake, par exemple. Il y a des coureurs comme Colado Zag, par exemple, qui ont réussi à trouver des contrats hors d'Iran et à aller en Chine. Bon, j'espère qu'il y en aura d'autres comme ça. Et puis, depuis la Chine, pourquoi pas espérer aller peut-être dans les équipes, dans les grosses équipes asiatiques, c'est-à-dire les équipes malaisiennes, la Sapura ou la Terengganu, pourquoi pas les voir dans ces équipes-là. Mais je pense qu'effectivement, dans un futur proche, on verra pas un Iranien World Tour. Comme ça s'est déjà vu précédemment dans l'histoire,
mais on va pas revenir. Pourtant, on est revenu à la course au point, donc ça pourrait être une possibilité, mais
on verra pas un Iranien chez AG2R comme ça avait été le cas, ou chez l'Autosoudal comme ça avait été le cas.
Ça avait été une catastrophe.
Précédemment. Oui, ils les ont jamais fait vraiment bien courir non plus comme il fallait, je pense.
C'est vrai, ouais. Alors, Thomas, toi, ton troisième coureur, si je me trompe pas, il est vénézuélien et il a signé en Conti Pro l'an prochain.
Oui, du coup, je vais faire l'ancienne Grande Colombie avec Orluis Aolar. Donc, lui, il est un peu plus vieux que Ardila et Cepeda. Il est de 96. Donc, c'est un coureur qui a signé chez Caraoual l'année prochaine. C'est un coureur pour les suiveurs, quand même, qui est connu depuis 3-4 saisons déjà. Donc, principalement, évidemment, en Amérique du Sud. Il s'était révélé en 2016, je crois, en battant Matteo Busato, qui était chez l'actuel Neri, au sprint sur la première étape. C'était déjà un très bon junior au Venezuela. Puis ensuite, il allait un peu partout. Il allait chez les Boliviens de la Star Team Gusto. Il a couru en Belgique, aux Pays-Bas, chez les amateurs en Espagne. Il a couru en Chine l'année dernière, où il a fait quelques places avec toujours la Star Team Gusto. Et puis pour 2019, il a signé dans la bonne équipe japonaise où des coureurs espagnols bien connus y sont, donc chez Matrix. Donc cette saison, il a remporté notamment la Coupe du Japon et il a de nombreux succès au Japon. C'est le coureur qui a le plus de top 10 toutes catégories confondues cette saison et il a notamment aussi écrasé le Tour du Venezuela en remportant les 5 premières étapes et je pense en laissant les autres gagner sur les 2-3 dernières étapes parce qu'il était vraiment 10 jambes au-dessus. Donc là, on l'a un peu vu en Espagne notamment sur le Tour, je crois, des Asturies, le Tour de Castille et León, où il a pris une deuxième place dans un petit groupe au sprint. Donc c'est un coureur rapide et qui est assez à l'aise en moyenne montagne.
Et comment tu le vois évoluer l'an prochain, Thomas? Est-ce que tu penses qu'il est capable de passer ce palier Conti Pro et de briller en Europe?
Alors, briller en Europe, oui, mais après, sur des courses, les petites courses espagnoles comme ce que j'ai cité juste avant, le Tour des Asturies, le Tour de Castille-León, le Tour de Madrid. Après, sur des courses World Tour, je ne le vois pas vraiment rivaliser avec les grands noms du cyclisme. Mais oui, pourquoi pas faire quelques placettes et apporter une ou deux victoires à la Cara Rural sur des plus petites courses l'année prochaine.
Et peut-être participer à la Volta, donc tu penses trop tendre ou... Tu penses qu'il...
Après, la Cara Rural a quand même un effectif très jeune pour l'année prochaine. Ils ont renouvelé complètement leur effectif. Ils ont, la majorité de l'effectif vient de la réserve. Bon, pas forcément de l'année dernière, mais des autres années. Du coup, ils ont un effectif assez jeune. Et c'est peut-être un des coureurs les plus expérimentés. Donc, bon, il y a Jon Abirasturi dans l'équipe, donc c'est le sprinter quasiment unique. Je dirais, il y a aussi Matteo Malucelli, donc ça va être difficile de s'imposer par rapport à eux. Mais oui, s'il fait des bons résultats, pourquoi pas le voir sur le Tour d'Espagne en 2020.
D'ailleurs, la Caja Rural qui va recruter le cousin du coureur dont tu nous parlais tout à l'heure, si je ne me trompe pas.
Non, c'est le cousin d'Ivan Sosa. Et c'est Johan Garcia qu'ils ont recruté.
Ils n'ont pas recruté Jefferson Cepeda aussi?
Ah si, pardon. Si. Jefferson Cepeda, oui. Qui est aussi un des meilleurs coureurs équatoriens. L'ancien champion d'Équateur, il était double champion d'Équateur l'année dernière. Et qui a remporté notamment une des plus grandes courses en Espagne chez les amateurs, le Tour de Navarre, pour sa première apparition en Europe cette saison, et qui a enchaîné, qui avait un niveau trop supérieur pour le niveau amateur, et c'est pour ça qu'ils l'ont fait passer directement chez les professionnels à partir du 1er août.
Alors, si on est bon, du coup, moi, je vais vous parler de mon dernier coureur. Je vais aller vite, hein, parce que c'est pareil, j'ai pris que des juniors quasiment, donc ils ont encore bien le temps avant d'éclore. Donc, le dernier pour moi, c'est un Européen, un Ukrainien, pour être plus précis. C'est Andriy Ponomar, qui a été sacré champion d'Europe cette année, alors qu'il était seulement junior première année. Il affiche 5 ou 6 succès au compteur. Donc, pareil, hein, je ne vais pas faire trop long, mais comme Magnus Sheffield, je pense que... On le verra dominer l'an prochain sa catégorie d'âge et pourquoi pas, comme Simons et comme d'autres, ensuite franchir le cap directement en Conti Pro ou en World Tour. Alors messieurs, pour clôturer cette émission, je vais vous proposer de nous donner quelques noms en vrac, comme ça, qui vous passent par la tête. Mathieu, si tu veux commencer sur le secteur ou les secteurs dont tu nous parles depuis le début de l'émission.
Oui, en vrac, je peux citer, donc, comme on était dans les familles, je vais citer Jakob Debesay, qui a signé à la Conti Groupama FDJ, donc qui est un coureur, un grimpeur très prometteur, qui a fait pas mal de très bons résultats, qui a gagné le Tour de l'Espoir, dont on parlait tout à l'heure, 7e du Tour du Rwanda, avec une victoire d'étape. Donc un coureur très prometteur, un bon grimpeur, même si son Tour de l'Avenir avait été un peu décevant à mon goût. Alors, après, comme autre coureur, on peut citer Vadim Pronsky aussi. Bon, on l'avait un petit peu exclu au départ parce qu'il est kazakh, donc le Kazakhstan, ce n'est pas vraiment une nation en développement. Mais voilà, il a signé chez Astana l'année prochaine, donc c'est pareil, c'est peut-être c'est un très bon kazakh dont on reparlera sûrement dans les résultats World Tour. Et puis, allez, un dernier... pour faire plaisir à un membre du forum qui se reconnaîtra, je vais citer le Burkinabé Paul Daumont, pour terminer, qui est aussi un bon espoir de son pays, même si je ne pense pas qu'il aura une carrière internationale, mais en tout cas au niveau africain, c'est un bon espoir africain, Daumont.
Alors c'est marrant, hein, je vais sortir un peu du sujet, mais je ne sais pas si vous serez d'accord avec ça, mais je trouve qu'il y a vraiment une séparation Afrique de l'Est, Afrique de l'Ouest. Je ne sais pas pourquoi,
clairement.
Mais on voit qu'il y a...
Clairement.
Une fracture, quoi. Thomas Wett, c'est ce que tu penses?
Oui, c'est clairement le cas. On a d'un côté l'Érythrée, bon, hors Afrique du Sud qui est à part, mais on a d'un côté l'Érythrée, l'Éthiopie, voire le Kenya, qui proposent des très bons coureurs, et puis de l'autre côté, l'Afrique de l'Ouest, qui a peut-être moins une culture cycliste, et qui s'impose difficilement en Afrique. Ouais.
Mais c'est marrant, parce qu'en plus, il y a pas mal de courses en Afrique de l'Ouest, au final.
Oui, mais c'est ça, il y a plus de courses en Afrique de l'Ouest qu'en Afrique de l'Est. Et ouais, on voit pas trop de coureurs d'Afrique de l'Ouest émerger. C'est plus au Rwanda, en Érythrée, en Éthiopie, voire au Kenya.
Mais c'est une question de moyens financiers aussi, hein, parce que L'Érythrée, elle met de gros moyens sur le cyclisme. Alors, l'Érythrée, il faut savoir quand même que c'est une dictature quand même assez terrible. Hein. Ça équivaut presque à la Corée du Nord, on va dire.
C'est d'ailleurs pour ça que c'est très compliqué pour les coureurs érythréens d'avoir des visas, parce que forcément, oui. On pense qu'ils vont fuir le pays à chaque fois qu'on leur accorde un visa. C'est assez compliqué.
Pour l'Europe, oui.
Après, pour revenir sur la domination de l'Érythrée, j'avais vu un reportage qui explique que cette domination, en fait, vient de la culture cycliste qu'ils ont eue lors de la colonisation par l'Italie.
Ouais.
Et que c'est le cas aussi en Éthiopie, et que ça peut expliquer en partie pourquoi ils ont une culture cycliste qu'en Afrique de l'Ouest, il n'y a pas.
Ouais, je sais plus qui avait signé un excellent papier là-dessus, ça me dit quelque chose, justement. C'était assez intéressant. Mmh. Bref, à ton tour, Thomas, du coup, quelques noms en vrac, quelques pépites sud-américaines que tu connais.
Bah, je vais citer déjà quelques Colombiens. Donc, German Gomez, qu'on a vu sur les championnats du monde junior, l'image qui a fait le tour du monde puisqu'il n'a pas été dépanné, donc ça reste un des meilleurs juniors en Colombie. C'est un coureur qui est très complet, qui n'a pas forcément le profil de grimpeur comme ce qu'on peut penser des Colombiens, mais je pense qu'on reverra ce coureur dans le futur comme un des meilleurs Colombiens. Je vais citer aussi Rafael Pineda, qui est un grimpeur, et je pense qu'il va être une des révélations colombiennes l'année prochaine. Et aussi un coureur qui aurait signé chez Bahreïn, donc il n'y a pas encore de confirmation, mais qu'on a vu en Italie, notamment sur le Tour du Val d'Aoste, et qui était même inconnu des suiveurs, c'est Santiago Buitrago. Donc c'est un coureur comme à suivre. Et aussi, toujours en restant en Colombie, Joan Alonso, qui a couru en France, qui a fait troisième de la Classique des Alpes Juniors, et qui a été repéré de cette façon par la Van Riesel, donc une structure junior très proche d'AG2R. Et il a été emmené en Europe par la Team Inca. Donc c'est une équipe dans le Cantal qui recrute des coureurs d'Amérique du Sud, comme des Boliviens, des Péruviens, des Colombiens. Et puis pour aussi ne pas parler que des grimpeurs, parce que Alonso est un grimpeur, il y a Nicolas Gomez qui est chez Colpack, qui est pour moi le futur du sprint colombien, et que je verrai bien chez Quickstep les prochaines années. Donc je continue quelques noms. En Équateur, deux noms de très jeunes qui, pour moi, devraient se révéler d'ici 4-5 ans. Donc, Nixon Rosero, qui est plutôt un rouleur, qui est un des meilleurs rouleurs en Amérique du Sud. Et Brian Obando, qui est le double vainqueur de la Vuelta du Tour de Junior d'Équateur. C'est des coureurs qui sont aussi dans les structures faites par les coureurs professionnels équatoriens, c'est-à-dire les structures de Richard Carapaz et de Jonathan Caicedo. Donc ça, ils peuvent pourquoi pas avoir un débouché dans les années futures. Et enfin, un jeune que je suivais lorsqu'il était chez les juniors en Espagne, qui a une nationalité qui n'a jamais été présente dans le cyclisme, c'est le portoricain Abner González, qui a fait une saison assez bonne pour un coureur né en 2000. Et que je vois bien, pourquoi pas, d'ici 2-3 ans aussi, dans une équipe espagnole, en continental ou en continental pro.
Alors, je vais te poser justement, Mathieu, du coup, un peu le même type de question, Thomas, le même type de question qu'à Mathieu, pardon. On en avait déjà parlé un peu, mais on a ces nations émergentes en Amérique du Sud, ou ces nations qui portent en tout cas le vélo dans ce secteur-là, qui sont la Colombie, maintenant l'Équateur, on a un peu de Venezuela, on a un peu de Costa Rica. Mais quelle est, à ton avis, la prochaine nation qui serait prête à éclore et à proposer des grands grimpeurs dans la lignée des Colombiens et des Équatoriens, dans une moindre mesure?
Bah, pour moi, honnêtement, il n'y avait quasiment que l'Équateur qui peut prétendre à ça. Parce que c'est un pays qui, quand même, au niveau du sport, qui n'est pas forcément développé. Il y a beaucoup de problèmes. Il y a peu de fédérations vraiment qui s'investissent dans le sport. En Équateur, par exemple, c'est uniquement la province de Carchi, les associations de la province de Carchi, qui frontalière avec l'Équateur, avec la Colombie, pardon, qui fait quelque chose pour le cyclisme. C'est d'ailleurs, la situation est quand même assez critiquée par les coureurs comme Richard Carapaz, comme Jonathan Narvaez. Donc moi, je vois vraiment uniquement l'Équateur. Et en Amérique du Sud, les autres pays, je ne vois pas d'autres pays émerger les années futures. Le Venezuela, quasiment aucun moyen, même s'il y a beaucoup de courses. Il n'y a pas forcément de talent individuel. Je pense que ça passe par deux, trois gros talents qui peuvent faire émerger le pays. Ce n'est pas trop le cas dans ce pays-là. Bolivie, Pérou, il y a quelques coureur au Pérou, notamment là en ce moment on voit la section péruvienne sur le tour du Guatemala. Ce sont des bons coureurs pour un continent comme l'Amérique du Sud, mais ils n'ont pas le niveau pour aller en Europe. Bolivie, c'est inexistant. Et Argentine, Uruguay, c'est pareil. Il y a peut-être Argentine qui est capable de faire ça, mais les problèmes de dopage. Ouais. C'est aussi un circuit assez fermé. En Amérique centrale, je ne vois pas non plus des pays vraiment avoir un boom dans le cyclisme les années à venir.
D'accord, donc selon toi, pas de nouvelle nation en Amérique du Sud à émerger assez rapidement.
Non, uniquement l'Équateur, c'est tout, je pense.
D'accord, bah, je pense qu'on a plus ou moins fait le tour de la question. À moins que vous ayez quelque chose à rajouter, messieurs, je propose qu'on conclue l'émission.
Oui, oui, je pense qu'on a bien fait le tour.
Parfait, bah, du coup, n'hésitez pas à nous poser des questions hein, sur le quand on va diffuser l'émission ou sur nos forums. Et pensez aussi à vous abonner à la chaîne. Bonne soirée, au revoir.
Au revoir.
Au revoir.